Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Une Europe un peu plus verte. Le groupe écologiste s'est déjà bien étoffé au Parlement de Strasbourg depuis les dernières élections et les objectifs que s'est fixés l'UE sont ambitieux. Moins 40% de gaz à effet de serre, plus 27% d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique dans 10 ans seulement. Il va donc falloir trouver des solutions innovantes. Sur le terrain, les exemples nous viennent parfois de l'extérieur. La preuve avec ce procédé révolutionnaire mis au point en Islande. Il permet de transformer le CO2 en roche, solide donc, et de nettoyer l'atmosphère. Une technique qui ne fonctionne pour l'instant qu'à petite échelle, à une trentaine de kilomètres de Reykjavik. Reportage signé Jérémy Richard.
Au pied des sommets du massif volcanique de Hengitl, les cheminées fumantes de la centrale géothermique de Hetliseni. Les six turbines de l'une des plus grandes usines électriques au monde tournent à plein régime pour produire plus de 300 MW par an et alimenter notamment la capitale islandaise Reykjavik à une trentaine de kilomètres. C'est aussi ici que se joue depuis 2012 le projet CarbFix, capter et transformer en roche le CO2 émis par la centrale. Hedda Sif Aradottir, directrice générale adjointe chez l'électricien Orkuveita Reykjavikur et chef de projet pour CarbFix, explique la méthode.
Après que le CO2, qui est en fait d'origine volcanique, a voyagé à travers la centrale sous forme de vapeur, nous le capturons d'une manière très simple, en le dissolvant dans l'eau. Donc fondamentalement, nous ne faisons que produire de l'eau pétillante à partir du CO2. Et ensuite, nous transportons cette eau, contenant le carbone dissous, vers nos champs d'injection où nous le propulsons dans le sous-sol.
Le champ d'injection se trouve au milieu d'un paysage lunaire et au bout de plusieurs kilomètres de pipeline. Trois petits dômes gris, espacés de plusieurs mètres et ajourés seulement de quelques hublots. À l'intérieur, plusieurs canalisations plongent vers le sol. C'est là que le dioxyde de carbone est propulsé à haute pression dans la roche basaltique. Sandra Ösk-Snæbjörnsdóttir, géologiste pour CarbFix, détaille la réaction sous terre.
Quelque part entre 100 et 2000 mètres de profondeur, le CO2 pénètre dans le substrat rocheux. Mélangé à l'eau et au contact du basalte, il se combine grâce à une réaction chimique pour former un minéral stable. C'est ainsi que le CO2 est transformé en roche dans le sous-sol.
Ce processus, appelé minéralisation, existe à l'état naturel, mais peut prendre jusqu'à plusieurs milliers d'années. Avec la méthode CarbFix, 2 ans suffisent. Le carbone se solidifie sous la forme de petits minéraux blancs et s'insère dans la roche basaltique brune et poreuse. Et rien ou presque ne peut remettre en cause son confinement. Sigurður Reynir Gíslason est géochimiste et président de CarbFix.
C'est une méthode stable et sécurisée. Mais si une éruption volcanique se produit en dessous de la roche, qu'elle la chauffe à très haute température, des minéraux pourraient se briser et se dissoudre à nouveau dans l'eau et remonter à la surface où ils pourraient retourner à l'état gazeux.
Mais pour information, le volcan Hengitl, où se trouve la centrale de Hetliseni, a un niveau d'activité considérée comme faible et sa dernière éruption remonte à plus de 2000 ans. 30% des rejets de CO2 de la centrale géothermique sont ainsi emprisonnés dans le sol, soit environ 12 000 tonnes par an. Dérisoire quand on sait que les volcans islandais recrachent chaque année entre 1 et 2 millions de tonnes de dioxyde de carbone. L'eau est la clé de la méthode CarbFix car elle accroît la sécurité du processus en évitant tout risque de fuite. Pour chaque tonne de CO2 injectée, 25 tonnes d'eau sont nécessaires. Une quantité significative, mais ce n'est pas du gaspillage, insiste Hedda Sif Aradottir.
Nous avons besoin de l'eau pour dissoudre le CO2 et accélérer sa minéralisation. Mais une fois que la minéralisation a eu lieu, nous pouvons en fait recycler l'eau sans le carbone. Donc je suis d'accord avec le fait que le processus demande énormément d'eau, mais nous gagnons beaucoup en éliminant définitivement ce CO2 qui autrement flotterait dans l'atmosphère.
Pour autant, une telle quantité d'eau abondante en Islande ne se trouve pas n'importe où sur Terre. Les ingénieurs de CarbFix sont donc désormais les yeux rivés vers les océans. Sandra Ösk-Snæbjörnsdóttir.
Nous faisons des expériences avec l'eau de mer car si nous sommes capables de l'utiliser, l'approvisionnement en eau est infini et il y a beaucoup de roches réactives situées à proximité des zones côtières et bien sûr dans les océans.
La capture et le stockage du CO2 dans le sous-sol terrestre sont en encouragé par le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat pour limiter à 1,5 degré le réchauffement de la planète. Pour porter ses fruits, la technique développée par CarbFix attend maintenant d'être déployée à une plus grande échelle que la centrale géothermique de Hetliseni, qui ne génère en CO2 qu'environ 3% des émissions d'une centrale à combustible fossile. C'est en tout cas ce qu'espère le ministre islandais de l'Environnement et des Ressources Naturelles, Guðmundur Ingi Guðbrandsson.
Personnellement, je parle de cette méthode lorsque je rencontre des entreprises. Par exemple, j'ai eu des rendez-vous avec les alumineries d'Islande. Toutes sont au courant de cette technique et je les encourage à regarder vers des solutions comme celle-ci pour réduire leurs émissions de CO2.
Comme le reste de l'Union européenne, dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat, l'Islande s'est engagée à réduire de 40% d'ici 2030 ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Or, celles-ci ont augmenté d'un peu plus de 2% en 2017, un tiers provenant du transport aérien et un autre tiers des usines d'alumine et de silicium.
C'est le plus grand réseau de bus électriques d'Europe, 48 km sans émission de dioxyde de carbone. Dans le nord de la France, la ville d'Amiens souhaite aussi convaincre les habitants de laisser tomber la voiture, mais ce n'est pas gagné, Lise Verbeck.
Depuis la mi-mai à Amiens, il faut désormais bien regarder lorsque l'on traverse la rue. Les nouveaux bus ne font quasiment aucun bruit et pour cause, ils sont électriques. La métropole a investi 122 millions d'euros pour mettre en place ce nouveau réseau. 43 bus du constructeur espagnol Irizar à 800 000 euros pièce sillonnent donc les 48 km de ligne. Ils sont baptisés Nemo en référence à Jules Verne, l'auteur étant mort et enterré à Amiens. Chaque Nemo est donc équipé d'un pack de 4 batterie au lithium qui lui permet d'être autonome 45 km. À la fin de chaque allée, le bus se recharge en 5 minutes à peine via un pantographe de charge rapide situé au bout de chaque ligne. Des voies réservées ont été aménagées dans la ville et des capteurs au sol ont été installés pour le cadencement des feux, ce qui permet au bus d'être prioritaire et de franchir les carrefours en 4 secondes. Ajoutez à cela un bus articulé de 18 mètres au design courbé avec à l'intérieur plus de lumière et de quoi recharger son téléphone portable, tout cela sans émettre aucune particule dans l'atmosphère. Autant d'atouts que la métropole d'Amiens veut mettre en avant pour inciter à prendre les transports en commun dans une ville où la voiture reste reine. Seuls 7% des habitants empruntent le bus. La métropole espère monter ce pourcentage à 25% d'ici 5 ans. Pour cela, elle met le paquet en rendant notamment le bus gratuit jusqu'à la mi-juin, puis ça sera tous les samedis. Mais quelques couacs lors de la mise en service a dû en dissuader quelques-uns. La promesse d'un passage à chaque arrêt toutes les 8 à 10 minutes n'est pas encore tenue, même si les retards commencent tout doucement à se réduire.
Et aux confins de l'Europe, l'Ukraine cherche à donner l'exemple. 25% d'énergie renouvelable en 2025 contre 2% aujourd'hui. L'objectif est ambitieux et rapide, mais dans cette course à l'énergie propre, l'argent sale est omniprésent, surtout depuis que l'État a décidé de favoriser les personnalités les plus puissantes du pays, les oligarques. Reportage à Kiev de Sébastien Gobert.
La maison de Roman Babatchuk ressemble à un pavillon normal en banlieue de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, à l'exception près des panneaux photovoltaïques géants qui couvrent une partie du jardin. Ici, c'est en fait une centrale électrique.
C'est une centrale de 30 kW. L'an dernier, ça a dégagé 60 MW d'électricité.
À l'été 2014, Roman Babatchuk a créé la première centrale solaire domestique d'Ukraine. Il est depuis indépendant en énergie et il vend son surplus au réseau régional.
Il faut en moyenne 7 ans pour obtenir un retour sur investissement, mais déjà maintenant, j'économise énormément d'argent.
Le succès de Roman Babatchuk fait des émules.
Regardez, mon voisin a installé ses propres panneaux solaires il y a peu.
L'histoire de ce particulier ne serait pas une exception en Europe. À travers le continent, les propriétaires sont encouragés à développer leurs propres sources d'énergie renouvelable, solaire, éolien ou biomasse. En Ukraine, cependant, ce n'est pas si fréquent. Les banques n'accordent pas de prêts à taux préférentiel pour les particuliers et peu d'entre eux peuvent fournir l'investissement de base de leur poche. À Kiev, Anna Ackermann est responsable du département qui lutte contre le changement climatique au sein de l'ONG Ecodia.
Il y a à l'heure actuelle 8000 petites centrales solaires. Si l'on compare à l'Allemagne ou à la Grande-Bretagne, où l'on en compte 1 million, c'est très faible. Mais il faut quand même préciser que, comparé à l'espace post-soviétique, l'Ukraine est vraiment à la pointe.
L'Ukraine a été l'un des premiers pays de la région à adopter un tarif vert, c'est-à-dire un prix d'achat de l'électricité produite des renouvelables qui est supérieur au prix du marché. Les distributeurs régionaux payent 7 centimes d'euros pour un kilowatt produit par une centrale thermique et 17 centimes d'euros pour un kilowatt produit par des panneaux solaires. Qui plus est, le producteur perçoit la différence en euros et non en grivna, la monnaie nationale. Cela le protège des dévaluations occasionnelles. C'est grâce à ce tarif vert que Roman Babatchok a pu prospérer à Lviv. Mais ce sont surtout les grosses puissances économiques en Ukraine, les oligarques, qui profitent du système.
В ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші».
Une enquête du collectif de journalistes Bihus Info s'est penchée sur la perversion du système. Le journaliste Denis Bihus.
Les énergies renouvelables sont propres, écologiques, nécessaires et c'est tout simplement super. Mais en Ukraine, elles sont le vecteur d'un circuit de corruption à grande échelle.
L'équipe s'est rendue dans le sud de l'Ukraine où des grands groupes ont installé des fermes géantes. L'homme le plus riche du pays, Rinat Akhmetov, a récemment inauguré 400 hectares de panneaux solaires, une des plus grandes fermes photovoltaïques d'Europe. Grâce au tarif vert, il aurait réalisé 100 millions d'euros de profit en 2018. Pourtant, le tarif vert est de moins en moins justifié. Igor Tini est député, homme d'affaires et représentant de l'Association de l'énergie renouvelable en Ukraine. Il est interrogé par l'équipe de Bihus Info.
Les technologies du solaire se sont tellement développées que le coût d'investissement est deux fois moindre qu'il y a cinq ans. La production photovoltaïque est très rentable, donc notre association a proposé une baisse anticipée du tarif vert dès cet été 2019.
Le Parlement a donc préservé ce tarif vert au détriment du budget de l'État et donc des contribuables et des consommateurs. Il sera annulé au 1er janvier 2020, mais restera valable pour 10 ans pour les centrales qui auront été activées avant la fin de l'année. À travers le pays, on assiste donc à une course à la construction par les grands groupes. Les oligarques verts ont aussi usé de leur influence au Parlement pour restreindre la concurrence des particuliers. Dans une de leurs dernières décisions avant des élections anticipées, les députés ont interdit les constructions de panneaux solaires sur le sol des propriétés privées. Toutes les installations doivent être détruites. Ne peuvent rester que les panneaux sur les façades ou sur les toits. Roman Babatchok à Lviv est donc supposé démonter ces panneaux solaires. C'est encore un signe pour lui de la corruption au plus haut niveau de l'État.
Un oligarque peut construire sur des centaines d'hectares de terrain, mais nous, particuliers, nous n'avons pas le droit d'utiliser notre propre jardin. C'est absurde. Il faut identifier qui est à l'origine de cette loi, qui a payé pour l'obtenir, et comment lutter contre ça.
Roman Babatchok et ses camarades du solaire n'ont donc pas fini de lutter, même si certains en Ukraine relativisent leur mécontentement, soulignent que les grands groupes sont nécessaires pour développer les renouvelables et affirment que la nouvelle loi est tout à fait justifiée. Que cela soit vrai ou pas, cela entretient le scandale et la sensation d'une élite qui se sert sur le dos du peuple, même dans des questions environnementales. Le journaliste Denis Bihus.
Vous êtes nombreux, mais il n'y a qu'un seul oligarque, Rinat Akhmetov. Le crime est organisé, mais pas vous.
À la traîne par rapport à l'Union européenne, en avance par rapport à l'espace post-soviétique, l'Ukraine cherche encore à développer son secteur des renouvelables d'une manière harmonieuse. C'est pour le pays une question existentielle. Les réacteurs nucléaires sont en fin de vie et les problèmes d'approvisionnement en gaz et en charbon depuis la Russie ont déjà prouvé que l'Ukraine doit trouver ses propres alternatives.
Son score aux dernières élections européennes défie tous les pronostics, 56% des suffrages. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban est plus que jamais une énigme. Dans son pays, il a remporté 4 élections législatives. Celui qui incarnait la promesse du changement dans sa jeunesse est devenu le chantre du populisme et de ce qu'il appelle la démocratie illibérale. C'est ce parcours qu'a cherché à comprendre la journaliste Amélie Poinceau qui publie chez Actes Sud Dans la tête de Viktor Orban. Elle a d'abord expliqué à Anissa El-Jabri, qui était le jeune Viktor Orban.
Le jeune Viktor Orban, c'était quelqu'un qui était tout d'abord opposé au système communiste dans lequel il vivait. Il émerge justement à la fin de la période communiste comme un jeune homme rebelle, libertaire, anticlérical, anti-autoritariste. Bref, il est tout à fait à l'opposé de ce qu'il est devenu aujourd'hui.
C'est même quelqu'un qui a beaucoup de charisme d'ores et déjà.
Oui, et c'est quelqu'un justement qui se fait remarquer en juin 89 devant une assemblée de plusieurs milliers de personnes sur la place des Héros de Budapest. Et effectivement, c'est quelqu'un qui a des qualités d'orateur assez remarquables dès le départ, qui n'a pas peur de prendre la parole en public et qui, en quelques minutes, ce jour-là, de juin 89, se fait connaître de la population hongroise.
Il se fait remarquer parce qu'il ose quelque chose que personne n'ose.
Effectivement, ce qu'il demande, en fait, c'est le départ des troupes soviétiques à un moment où la Hongrie fait encore partie du bloc de l'Est, elle est encore sous la coupe de Moscou, et à ce moment-là, rien n'était joué, même si, évidemment, à ce moment-là, plusieurs fissures étaient apparues au sein des démocraties populaires. Déjà, la Pologne était sur la voie d'élections semi-libres, plusieurs brèches étaient apparues dans tous ces pays d'Europe centrale, mais la Hongrie n'était pas encore indépendante vis-à-vis de Moscou. Donc, ça pouvait tout à fait se retourner contre lui.
Quelqu'un de courageux, quelqu'un qui a du charisme, quelqu'un qui se lance très vite dans la politique et qui crée le Fidesz, pas tout à fait tel que le connaît aujourd'hui.
Au départ, en fait, c'est plus une organisation civile, c'est une organisation d'étudiants, donc qui est née, en fait, sur les bancs de la fac de droit de Budapest. 35 étudiants se réunissent dans une salle et décident de créer cette organisation dans l'idée de s'opposer aux jeunesses communistes, puisqu'à l'époque, il était encore assez fréquent que pour entrer à la fac, en fait, les jeunes adhéraient au Parti communiste ou en tout cas son organisation de jeunesse. Et tous les jeunes autour d'Orban, au contraire, ne veulent pas adhérer à cette organisation de jeunesse communiste et créent le Fidesz un peu en opposition à cela. Mais c'est l'arrivée des premières élections libres en 90 qui la font que le Fidesz tout de suite se transforme en parti politique parce qu'à ce moment-là, clairement, de la part d'Orban et de ses proches, il y a une volonté d'accéder au pouvoir.
Viktor Orban, vous dites, ancre ce parti à droite parce qu'il voit un espace. Est-ce que c'est quelqu'un qui a des convictions ou est-ce que c'est quelqu'un pour qui la conquête du pouvoir est la première quête ?
C'est un peu des deux. Orban, au fond, avait des convictions, mais je crois que c'est quelqu'un qui est effectivement animé par une volonté de pouvoir, une volonté de régner, qui du coup a pris le dessus dans ces dernières années. Je pense que c'est quelqu'un qui n'était pas forcément convaincu au départ, par exemple, par les positions qu'il a prises sur la question migratoire, mais qui, à partir du moment où il les défend, se met à y croire.
C'était d'abord une aubaine politique pour lui, la crise des réfugiés ?
Ah oui, tout à fait. C'est effectivement un calcul politique, puisque son discours anti-migrant commence à partir du moment où il y a les attentats à Paris, donc en janvier 2015. Et c'est à ce moment-là qu'il fait un rapprochement assez sordide entre les attentats qui ont lieu à Charlie Hebdo et à l'hypercachère à Paris et les premières entrées, disons clandestines, à la frontière hongroise en janvier 2015. À ce moment-là, on n'est pas encore dans ce qu'on a appelé plus tard la crise des réfugiés, c'est encore que les prémices, mais Orban sent quelque chose. C'est quelqu'un qu'il faut dire aussi a un grand flair politique. Et après, effectivement, il va continuer sur ce discours de façon obsessionnelle. C'est un discours qu'il n'a pas quitté depuis.
La même chose, peut-être sur ce qui concerne toutes les réformes entreprises sur les contre-pouvoirs, la justice, etc.
Dans le cas des réformes institutionnelles, c'est lié, à mon sens, à un élément peut-être un peu plus psychologique, c'est-à-dire sa première grande défaite électorale qui date de 2002. Donc après son premier mandat, il perd de façon complètement inattendu. Et tout de suite, il se dit, la prochaine fois que je reviens au pouvoir, il faut que je cadenasse, que je mette en œuvre des moyens pour justement pouvoir rester au pouvoir.
Il y a une différence entre les convictions de Viktor Orban, ce à quoi il se met à croire et comment il agit, c'est ça ?
Orban lui-même est surtout un habile politicien, c'est pas un idéologue. En revanche, autour de lui, il y a des idéologues. Il y a des gens qui l'influencent, ou en tout cas qui le conseillent de manière très efficace. Et je pense notamment à quelqu'un comme Maria Schmidt, qui est la directrice du Musée de la Terreur à Budapest et qui cumule plusieurs postes en tant qu'historienne. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment à l'origine, je pense, qui a contribué en tout cas pour une grande partie à la politique mémorielle mise en œuvre par Viktor Orban, qui est un des éléments clés de sa politique.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique podcast, et sur les réseaux sociaux. À demain.